Et comme chaque mardi, on retrouve le rendez-vous du libraire avec aujourd'hui Philippe Bernadou de la librairie de Loche. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et Nadège Loublier de la librairie La Femme Renard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui commence aujourd'hui, Philippe?
Eh ben, je commence. Et je me suis fixé un challenge aujourd'hui, c'est de parler d'un livre dont je ne sais pas précisément pourquoi je l'ai aimé. On va essayer quand même. Alors, on peut bien sûr parler de charme, hein. Je suis tombé sous le charme de ce livre, et je conçois bien que cela ne nous satisfasse pas vraiment. Ce livre, il s'appelle « La grand-mère et la petite sorcière » et il est de Alain Bonan. Alors bon, parlons de l'histoire. La grammairienne du titre. La première partie du livre, c'est Adeline, une jeune femme qui veut écrire sur l'œuvre de l'auteur, qui prépare un travail sur l'œuvre de l'auteur, qui n'est jamais nommé, mais qui est certainement Alain Bonan. Alors nous lisons seulement les réponses de l'auteur, ça ressemble plutôt à des mails. D'abord refus poli, puis la curiosité est piquée et la sensualité aussi est piquée. On marivode par l'intermédiaire d'un ancien livre de l'auteur, qui s'appelle « Je vous adore si vous voulez », inspiré par une certaine Sylvie et publié en 2003 au PUF. Tout ça est authentique et vrai. Et Adeline veut savoir s'il existerait d'autres textes dédiés à Sylvie que l'auteur aurait gardé par devers lui. « Eh bien, venez chez moi, je vous les montrerai », lui dit l'auteur. On prend rendez-vous. La deuxième partie, ce sont ces fameux textes écrits autour de Sylvie, la petite sorcière, allumeuse de sentiments de première qualité. Je cite l'auteur. Ce sont des textes brefs, des petites nouvelles, des poèmes, des aphorismes, tous empreints de l'adoration que lui porte l'auteur. Il y a aussi l'histoire de Capucine, la fleuriste, qui intervient dans l'histoire. Écoutons. On ne devrait jamais offrir de fleurs au mois de février. Voilà ce que j'ai fini par confier tout à l'heure à Capucine, qui insistait sur le prix des roses et s'inquiétait bien à tort pour mon porte-monnaie. C'est une rêveuse, cette fleuriste. Je suis prudent avec elle, j'ouvre la bouche le moins possible. C'est difficile, parce que la pensée que je m'apprête à vous faire plaisir me met toujours dans un état de joie que j'ai un peu de mal à contenir, je vous l'avoue. Comme jeune femme, vous êtes assez formidable. Vous l'ai-je dit déjà? Est-ce que les fleurs vous le disent? Ce n'est rien d'autre que cette petite musique, cette écriture qui vous amène dans une intimité où vous prenez plaisir à être tout en vous reprochant votre indiscrétion. Oui, ça doit être cela, le charme. La grammaire et la petite sorcière d'Alain Bonan est publiée par Serge Safran.
Merci Philippe. Nadège, vous nous présentez un ouvrage de Victor Delarbol.
Oui, Victor Delarbol.
Victor Delarbol.
Oui, Victor Delarbol est un auteur espagnol dont déjà trois romans ont été traduits en français chez Actes Sud Noir. Son premier titre qui avait été donc traduit, La tristesse du samouraï,
dont j'avais parlé en son temps
à sa parution, a été repéré et il lui a valu le prix du Polar européen 2012 du Point. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième roman qui est paru début d'année 2015, qui s'appelle donc Toutes les vagues de l'océan. Victor Delarbol, après des études d'histoire, a travaillé dans les services de la police de la communauté autonome de Catalogne. Et ces deux casquettes sont très présentes dans ses livres. Le texte s'ouvre sur une scène qui nous fait entrer tout de suite dans le vif du sujet. Un enfant de 6 ans, Roberto, disparaît, puis est retrouvé peu de temps après, noyé dans un lac, près de la maison d'enfance de sa mère, Laura, flic, qui travaille depuis des années sur une organisation mafieuse russe, la Matryoshka. Le lecteur découvre ensuite les personnages qui vont faire ce roman. Gonzalo, le frère de Laura, avocat, qui a un peu de mal à trouver sa place, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Agustín, son beau-père, qui lui est un avocat de renom et fut très influent sous Franco. En reprenant l'enquête de sa sœur après son suicide, donc Gonzalo va sur les traces de la Matryoshka, mais aussi va à la recherche de son histoire familiale et sa reconstruction personnelle. L'auteur nous fait faire des allers-retours entre les années 2000 et les années 30, où l'on découvre la vie d'Elias, le père de Laura et Gonzalo, jeune homme espagnol communiste qui part en URSS, voir comment Staline réalise cette grande révolution communiste. Mais il se retrouve accusé de trahison et déporté en Sibérie. Ce livre est une grande fresque où Victor Delarbol fait subir à Elias les tumultes de l'histoire du XXe siècle européen, la Révolution russe, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale. Une des grandes forces de ce texte est la description des émotions, des ressentis, des réflexions de tous les personnages, ce qui nous permet d'être au plus près d'eux, de les comprendre, de les connaître, d'être avec eux autant dans leurs douleurs, leurs enthousiasmes, leurs combats. Ce roman nous pose aussi des questions à nous lecteurs sur la place de l'acte individuel dans l'histoire. Qui influence qui ? Est-ce l'acte d'un homme, goutte d'eau parmi des millions qui fait l'histoire, ou est-ce les événements comme la guerre qui brise et fait fléchir l'homme ? Mais aussi, il nous interroge sur la place de l'utopie, de la force de l'amour que l'on porte à une personne ou à des idées. Et important pour lui, pour l'auteur en tout cas, comment se construit la figure d'un héros ou d'un mythe. Vous aurez compris que Toutes les vagues de l'océan est un texte très riche, il est difficile de le résumer. Ne surtout pas vous laisser impressionner par ces 600 pages. C'est un grand roman noir dans lequel vous vous laisserez embarquer et balloter par le mouvement des vagues de l'existence et de l'histoire. Ça s'appelle « Toutes les vagues de l'océan » de Victor Delarbol aux éditions Actes Sud en collection noire.
Merci Nadège. S'il vous plaît, une lecture, Philippe.
Eh bien, vous allez l'entendre, nous restons dans le thème Catalogne, tout à fait indirectement d'ailleurs. Il se trouve que je vous avais lu l'an dernier des poèmes de Paul Éluard qu'il avait écrit pendant la période de l'occupation, alors qu'il était réfugié dans un hôpital psychiatrique, dans le massif central. Et Didier Denex vient de consacrer un livre entier à cet épisode, au passage de Paul Éluard et de sa femme dans cet asile psychiatrique. Et c'est l'occasion de retracer la condition des malades mentaux de l'époque qui mouraient de faim. Et c'est l'occasion de saluer le travail qu'ont fait deux personnes. C'est Lucien Bonafé et François Tosquel, qui étaient donc les médecins en charge de cet hôpital qui était à Saint-Alban, mais non pas Saint-Alban à côté de Toulouse, mais Saint-Alban en Margeride. Donc des deux, je commence la lecture. L'espagnol, c'est Tosquel. Je me demandais, j'avais du mal à reconnaître l'accent. C'est normal, il tient à ses origines catalanes. Son vrai nom, c'est Francesc Tosquelles. J'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de fortes personnalités et je peux vous dire que c'est quelqu'un de vraiment singulier. Depuis, assez peu farouche, s'était envolé du tilleul pour s'approcher de leur démarche claudiquante, attiré par les miettes que le photographe détachait d'un quignon de pain dur. Il est là depuis longtemps, un peu plus de 3 ans. Il est né à Reus, comme Antonio Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia, la basilique de Barcelone. Quand j'ai envie de le faire râler, je lui dis qu'ils doivent être cousins. Il a décroché son bac à 15 ans, sa thèse 5 ans plus tard, avant de suivre les cours du professeur Mira, le premier professeur de psychiatrie d'Espagne. Après la proclamation de la République au printemps 1931, des dizaines de psychanalystes ont fui l'Europe centrale grignotée par le fascisme. Beaucoup d'entre eux sont venus s'installer à Barcelone, qui est devenue une sorte de petite Vienne catalane. Il a suivi une analyse avec l'un d'eux, Sandor Heiminder, un juif hongrois. D'après ce que j'ai compris, il a fait partie de l'équipe de militants qui a créé le Parti ouvrier d'unité marxiste en 1935. Denise lui avait coupé la parole. « Le POUM, vous voulez parler du groupe trotskiste ? On dirait que vous ne les portez pas dans votre cœur. » C'est ce que je pensais aussi. Mais quand Bonafé et Tosquel mettent le sujet sur le tapis, je n'y comprends plus rien. Il lui arrive de s'énerver et de rappeler à Lucien qu'il a failli être fusillé par les communistes orthodoxes bien avant d'être condamné à mort par les sbires de Franco. Tosquel ne se dit pas trotskiste, mais anti-stalinien. Pendant la guerre, il était responsable d'un asile à Almodóvar del Campo, sur la ligne de front, où il avait embauché des curés et des prostituées pour s'occuper des malades. Leur métier leur avait probablement appris que tous les hommes sont fous. À la chute de la République, il a réussi à passer entre les mailles du filet grâce à sa femme, Elena. Il a été interné derrière les barbelés du camp de concentration de Sept-Fonds, entre Cahors et Montauban. On y mourait de faim, de septicémie et surtout de désespoir. Et là encore, il a mis un service de psychiatrie sur pied, avec les moyens du bord. C'est la qualité de son travail qui l'a conduit à Saint-Alban. Voilà, donc en liaison directe avec l'histoire locale aussi, c'est de Didier Denex, ça s'appelle « Caché dans la maison des fous », ça vient de paraître aux éditions Bruno Doucet.
Le rendez-vous du libraire, c'est chaque mardi, un petit peu après 18h sur CFM Radio, sur l'ensemble du réseau. Et puis c'est quand vous le voulez, hein, sur cfmradio.fr. À noter également que les références des ouvrages présentés ici, vous les retrouvez sur librairiemontauban.fr, où il y a même une télé de l'ALMA maintenant. Enfin, il se passe plein de choses.
Ou sur la télé, sur cette télé, vous pourrez voir un clip réalisé sur Victor Del Árbol, justement, réalisé par Hugues Dedi au cours de son passage à la librairie de la Femme Renard.
Quelles sont les actualités de vos librairies, messieurs, dames?
Ben, j'ai une actualité, c'est, du moins, c'est pas chez moi, c'est toujours chez Beau Livre. Le rendez-vous du second samedi autour de la photographie ancienne, avec Monsieur Gérard Noël qui expertisera vos photos anciennes.
Et ensuite le 16 juin,
alors là, à la librairie de Loche à 17h, rencontre avec Loro Mazzono pour son roman La porteuse de Baïa.
Merci Philippe Bernadou, merci Nadège l'oublié, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.